Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous propose parole aux auditeurs. Dans un arrêté publié le 14 juin dernier, le ministre de Médias et de la Communication annonce qu'elles sont interdites à travers le média en ligne, l'apologie du crime, l'incitation à la violence, à la dépravation de mœurs, ainsi qu'à toute autre forme de discrimination. Le même arrêté souligne qu'aucune publication d'information générale ou spécialisée en ligne ne peut comporter une illustration qui porte atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée. Ce texte apportera tant soit peu de l'ordre dans les secteurs de médias en ligne, estiment les uns. Les autres pensent plutôt les contraires. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 09-97-06-4969 pour vos interventions directes. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay, Pierrot et la Meji. J'ai le réel plaisir de vous le présenter sous la supervision de Julien Niamouini, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Okapi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Et pour en parler, nous avons associé à cet échange le professeur Kodjo Ndoukouma, docteur en droit du numérique de la Sorbonne et professeur de droit du commerce électronique. Professeur Kodjo, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut dire qu'il était temps que la RDC essaye de mettre l'ordre dans la gestion du secteur de médias en ligne?
Oui, effectivement, il y a un enjeu de législation ou de réglementation et il y a un enjeu également de faire respecter l'ordre public numérique. Vous savez, en 1996, le 22 juin 1996, il y a eu une loi portant modalités d'exercice de la liberté de presse. Mais cette loi n'a pas spécifiquement prévu, à côté de la communication audiovisuelle et de la communication par presse écrite, n'a pas explicitement prévu la communication en ligne. Donc il a fallu attendre la loi de 2010 sur le CESAC pour que, à son article 17, il soit évoqué la question des médias en ligne. Bon, après, maintenant, il y a l'autorité réglementaire qui est le ministre et il y a l'autorité de régulation qui est le CESAC. Mais la communication en ligne est une activité tout à fait libre, sauf les exceptions d'ordre public. Alors, maintenant, en termes de nécessité d'enjeux de réglementation, on se rend compte, d'après les statistiques d'avril 2018 en milieu urbain, que plus ou moins 29% des gens s'informent par la presse en ligne, alors que la radio concerne 71% de personnes qui s'informent et la presse écrite juste 1%. Et puis l'Internet, c'est 4,5 milliards d'internautes. Au Congo, il y a 13 millions d'internautes mobiles. Et donc, la diffusion des informations en ligne a un grand impact, d'autant plus qu'il y a des vrais journalistes, il y a également des pseudo-journalistes, d'autant qu'il y a des fake news et qu'il y a une communication d'influence qui porte des effets sur la situation politique, sociale et économique du pays.
Mais et quand on regarde la sphère médiatique en ligne, avec tout ce qu'il y a comme profusion d'informations, il y a d'abord, comme vous l'avez dit, des vrais journalistes, ça veut dire des médias qui sont créés par des professionnels qui diffusent de l'information. Ça peut être de la musique, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a aussi toute cette publication sur les réseaux sociaux qui échappe en principe au contrôle. Est-ce qu'il faudrait-il aujourd'hui avoir une loi spécifique qui puisse arriver vraiment à réglementer tout ce qui circule aujourd'hui en ligne?
Oui, il faut prendre la question dans un continuum éditorial. Comme vous l'avez dit, la communication en ligne est une communication 2.0. Vous avez des chaînes de télévision ou de radio qui existent, vraiment sur la place publique, et qui émettent également ou diffusent des informations en ligne. Mais vous avez également des purs, ce qu'on appelle des purs players. Ça veut dire des cyberjournalistes, comme Congo Mitili, qui ne diffusent que en ligne. Alors, il faut déjà faire une catégorisation, parce qu'il y a aussi des blogueurs, des éditeurs particuliers qui n'ont aucune ligne éditoriale et qui publient assez régulièrement des informations. Ils font de la collecte, du traitement, plus ou moins journalistique des informations parce qu'ils le font régulièrement. Mais maintenant, il faut inscrire la question non seulement dans le secteur des médias, mais il faut l'inscrire dans le secteur du commerce électronique, comme ça a été fait en Europe avec la directive 2000 du 8 juin 2000 en Europe, ou comme ça a été fait en France avec la loi de 2004 sur la confiance en l'économie numérique. Parce que aujourd'hui, nous avons à la fois des données informatives, donc l'information au pur sens du mot, et nous avons des données publicitaires qui passent au même moment sans qu'on puisse distinguer cela dans la communication en ligne. Et donc, lorsque le ministre prend l'arrêté, il s'attaque à la question de la xénophobie et des dérives de l'information en ligne, mais il s'adresse également à des questions qui n'entrent pas directement dans la sphère de ses compétences. Donc s'il y a une législation à faire, il faut faire une législation qui tienne compte de tous les aspects que je viens d'évoquer.
Et alors, quand on regarde aujourd'hui ces publications en ligne, vous l'avez dit, il y a ce qui passe par c'est la publicité, il y en a qui les font d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a-t-elle des outils, par exemple au niveau du ministère qui s'occupe de la réglementation, même le CESA qui s'occupe de la régulation, ont-ils aujourd'hui des outils nécessaires qui puissent leur permettre de d'avoir un œil sur tout ce qui se déroule en ligne aujourd'hui en RDC?
Oui, la question elle est très bien posée. Vous ne pouvez pas faire une réglementation purement juridique tant que vous n'avez pas des moyens de régulation technique et des moyens de régulation économique d'une activité. Ailleurs, ce qui s'est passé pour contrôler, lorsque en 2004 la loi a été prise pour la confiance en l'économie numérique et gérer la communication en ligne, on s'est arrangé pour que le pays puisse avoir une architecture de l'Internet. Ça signifie que les médias en ligne sont considérés comme des éditeurs. Et eux, ils travaillent sur le contenu et ils ont besoin des hébergeurs, ils ont besoin des fournisseurs d'accès à Internet et ils ont besoin des opérateurs des télécommunications pour que leurs éditions soient mises en ligne. Et donc, le contrôle s'opère sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Si on n'a pas la possibilité de mettre la main sur l'éditeur parce qu'il est il diffuse à partir de l'étranger, on cherche l'hébergeur et le serveur qui où est-ce qu'il est localisé. Si l'hébergeur n'est pas en mesure de pouvoir mettre fin à une violation informationnelle, on recourt au fournisseur d'accès à Internet pour rendre cet accès impossible le temps que l'éditeur puisse régulariser sa situation. Et sinon, au besoin, on recourt carrément à l'opérateur de télécom. Donc la régulation purement juridique ne saurait pas tenir si on n'a pas une maîtrise sur les contenants de ces éditions et si on n'a pas une maîtrise également sur le contenu. Mais à dire en 30 secondes, les médias en ligne chez nous au Congo, c'est quand même un avantage parce que ça évite d'avoir une information, comment on dit, en retard. Et puis c'est une industrie qui est en train de monter. Il faut l'encadrer, mais il ne faut pas l'étouffer.
Voilà. Et si la question d'encadrement, c'est assez important, que ça soit la corporation aujourd'hui, l'UNPC, que ça soit l'Observatoire de médias congolais, le CESAC, et ensemble, mais on ne sent pas vraiment qu'il y a cet engagement d'accompagnement, des formations de journalistes, de ceux qui travaillent en ligne. On ne sent pas vraiment qu'il y a aujourd'hui un travail d'effort, d'accompagnement, pour qu'on arrive à les encadrer, à les orienter, pour enfin qu'on ne puisse pas plus gérer le dégât que encadrer ceux qui peuvent ne pas tomber dans les erreurs demain.
Oui, mais c'est tout le regard que notre République porte sur l'Internet. En France, en 2016, il y a une loi qui a été créée. La loi s'appelle la loi pour la République numérique. Quel est le regard que nous avons sur la société de l'information? Lorsque vous regardez le New York Times, mais aujourd'hui le New York Times, vous n'avez pratiquement plus de publications papier. Tout se fait en ligne. Mm-hmm. Lorsque vous regardez Jeune Afrique, c'était un bi-hebdomadaire ou je sais pas moi un bimensuel, mais aujourd'hui il fait de l'information continue. Ça veut dire qu'il y a un changement de paradigme éditorial et un changement de paradigme même dans la façon de vivre en société où tout est aujourd'hui dans le virtuel. Et donc nous devons avoir un regard sur ça. Maintenant, il y a la profession journalistique avec l'UNPC qui est la communauté des pairs, qui doit pouvoir également s'exprimer quel est son regard sur cet arrêté du ministre et dire quelle est la vision ou l'orientation qu'ils veulent donner. Mais je sais également qu'il y a Monsieur Ligaudy qui est président des médias en ligne. Alors en France, il existe un syndicat de ces médias en ligne qui s'organise pour être l'interface de l'État, l'interface vis-à-vis de l'État et de la profession. Donc il faut que nous ayons dans ce pays ici une politique générale, pas sectorielle, mais une politique générale sur la société de l'information. Parce que ailleurs, ils sont allés même au niveau de la souveraineté numérique. La guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre informationnelle. Hein, c'est la guerre de l'information. On peut susciter de comportements dans le monde cinétique rien qu'en envoyant des rumeurs sur les réseaux sociaux et sur la presse. Vous avez vu comment plus ou moins 125 millions d'électeurs américains ont été influencés par les fake news à cause, dit-on, des connexions avec la Russie. Mm-hmm. Donc on doit développer, pour faire court, une politique qui nous amène à une souveraineté numérique du pays. On doit contrôler notre espace médiatique virtuel, mais nous devons avoir également une politique sur la société de l'information, une politique sur l'informatisation des services publics et une politique sur le e-reputation management. Ça veut dire comment est-ce que nous soignons l'image de nos institutions dans la blogosphère, donc dans l'Internet, qui est un média transfrontière et universel et mondial.
On va écouter les auditeurs. Merci, professeur Kodjon Doukouma. On vous garde en ligne. Le débat, il est très intéressant parce qu'on n'en évoque pas beaucoup. En plus, quand on voit même la régulation, le débat, c'est autour de la radio et la télé. Et ça, c'est vraiment très, très important. Arsène, merci d'être avec nous dans cet échange. Vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Bonjour au professeur qui venait de parler.
On vous écoute.
Merci beaucoup. En suivant le professeur avec les explications qu'il venait de donner, moi je pense ici, nous allons trop vite en besogne dans des histoires où nous sommes presque incompétents. Parce que l'arrêté du ministre vient s'asseoir sur quoi? Ça vient s'asseoir dans le vent. Parce que, quand je vois bien, nous n'avons pas encore la maîtrise de la technologie de l'Internet. Jusque là, si vous regardez chez nous, et ce ne sont que des entreprises étrangères qui sont venues s'installer ici, qui ont le monopole de la communication et de l'Internet. Mais ce que le ministre venait de faire, c'est pas mal, mais il fallait d'abord commencer par le début, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf, il fallait commencer d'abord par nous équiper. Il y a une facture pour ça. Alors, c'est le moment où nous sommes, et nous avons plusieurs priorités. Mais la communication est l'une des priorités aussi très importantes qui est sécuritaire aussi et politique, sociale, économique. Mais tant que nous avons nos institutions qui sont presque pas financées, il faut attendre quelque chose de l'extérieur, on ne peut pas filer tout droit vers cet arrêté-là parce que ça risque d'être dans les vides, ça risque d'être un coup d'épée dans l'eau. Donc pour moi, d'abord, il faut commencer d'abord à installer les instruments techniques et les instruments juridiques ne peuvent venir qu'après. Les instruments techniques vont nous aider à maîtriser la technologie de l'information, la technologie de l'Internet, dès que nous aurons la maîtrise, et à partir de là, on peut légiférer sur les différentes préoccupations que nous avons. Voilà un peu mon intervention.
Alors là, je vais demander directement au professeur Kodjo de pouvoir réagir. Faudrait-il commencer par les aspects techniques ou les aspects juridiques, comme venait de dire Arsène tout à l'heure?
Oui, il dit quelque chose de pertinent que j'avais dit en passant. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire respecter la lettre du plus beau arrêté ou de la plus belle loi si derrière vous ne mettez pas un dispositif technique. Vous avez toute la problématique que nous avons sur l'hébergement du point CD. Ça veut dire qu'à un moment, donc le point CD, tout le monde comprend, à un moment donné, nous n'avions pas un contrôle sur ce top level domain, donc sur cet identifiant du pays. Aujourd'hui, nous avons un réseau national qui est décentralisé. Nous avons plusieurs points d'accès au pays et je peux vous dire que il y a des serveurs qui sont installés complètement à l'étranger et qui dirigent chaque jour leurs activités au Congo. Donc la territorialisation de notre espace virtuel pose problème parce que nous n'avons pas effectivement un système centralisé qui tient justement le contrôle sur les fournisseurs d'accès à Internet, sur les sociétés des télécommunications de manière physique avec leurs infrastructures et sur également les hébergeurs qui sont partout dans le monde. Voilà, c'est ça la grande question. Il faut à la fois réglementer le contenant et ce qui est le réseau et ensuite réglementer ce qui est contenu, qui est en fait le flux d'informations qui est diffusé simplement sur Internet.
Élie, vous êtes en Bandaka. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour, Élie.
Bonjour, Radio Capi. Je salue l'invité. En tout cas, le sujet est pertinent parce que la question de liberté de presse aujourd'hui à la République, il semble que le ministre, il a ouvert en fait un certain mécanisme juridique pour pouvoir permettre aux médias de pouvoir fonctionner à la logique de procédure. Parce que le média, en fait, a des fonctions et des influences sociales dans un état de droit. Les médias ont des missions principales pour l'information, la formation et de divertir la masse, d'observer les milieux environnants et attirer la communication sociale, ainsi de suite. Il y a beaucoup de missions primordiales pour les médias. Et aussi savoir aussi la responsabilité politique des médias dans un État démocratique. Lorsque aujourd'hui le ministre prend un arrêté pour réguler ou pour donner un instrument juridique pour le fonctionnement des médias en ligne, sans pourtant saisir d'abord le Parlement qui est le représentant du peuple, parce que le ministre devait d'abord saisir l'organe législatif pour donner une régulation au fonctionnement des médias en ligne. Aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de loi pour la cybercriminalité. Je pense que l'invité pourrait me répondre à cette préoccupation. Il n'y a pas de loi pour la cybercriminalité. Donc, n'importe quel média peut en tout cas fonctionner. Et que voilà, même s'il y a des bévis, il y a des infractions qui se commettent en ligne, il y a des difficultés pour pouvoir interpeller tous ces gens parce qu'il n'y a pas de loi pour la cybercriminalité au Congo. J'aimerais que le ministre des médias puisse se ressaisir. Il ne peut pas faire sortir un arrêté sans pourtant saisir d'abord les parlements. Il y a un organe législatif pour la planification des instruments juridiques. En tout cas, ça c'est une petite observation. J'aimerais encore aborder mon intervention dans le sens de dire que aujourd'hui, nous nous préparons vers les élections qui se pointent à l'horizon. Alors la population, les partis politiques, les gouvernements doivent avoir chacun un sens de responsabilité. Vous avez vu combien de fois les gouvernements ont place à travers les partis politiques au pouvoir, les PPRD, permettez-moi pour citer les noms, qui circulaient partout dans toutes les provinces. Mais lorsque le parti politique du PPRD émet son point de vue, même c'est un point de vue qui a été relayé par les médias en ligne, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'opposition, l'information de la population, de l'opposition relayée par les médias en ligne, ça pose aujourd'hui un problème. C'est pour cette raison que le ministre s'est précipité pour faire sortir un arrêté pour pouvoir rétrécir les libertés publiques, les libertés de presse dans un état de droit. Ce n'est pas quelque chose que nous devons aussi accepter. Le ministre doit se ressaisir, doit abolir cet arrêté. On commençait d'abord par saisir l'organe législatif qui est le Parlement, les représentants du peuple d'abord. Ce n'est pas de cette façon qu'on peut se fonctionner dans un état de droit. L'autre chose que j'aimerais aussi aborder et poser la question à l'invité, mais c'est l'invité peut nous répondre aussi clairement. Est-ce que dans notre pays, nous avons des lois pour la cybercriminalité? Et lorsque toutes ces lois ne sont pas ici au Congo, que faut-il faire? Est-ce que faut-il accepter l'arrêté des ministres pendant que le ministre n'a pas saisi l'organe législatif? C'est ça la question que j'aimerais
que merci beaucoup, Élie. Rappelons, il y a un arrêté, il y a une loi, mais les arrêtés, le ministre le prenne. Il faut qu'il soit conforme, bien sûr, à la Constitution. Ça s'est discuté en conseil de ministres. Et pour vous, vous estimez qu'il fallait passer par le Parlement. Et là, il fallait qu'on ait une loi. Et vous avez voulu aussi que l'invité nous dise si aujourd'hui on a une loi qui gère la question de la cybercriminalité. Mais vous avez aussi beaucoup d'appréhension pour éviter que l'arrêté du ministre ne soit considéré ou ne tombe dans l'étouffement de la liberté d'expression en ligne, parce que c'est là peut-être où beaucoup de gens peuvent s'exprimer. Comment éviter de ne pas tomber dans tous ces pièges, d'un côté de la réglementation, mais d'un côté aussi de l'étouffement de la liberté d'expression. Merci beaucoup, Élie. Professeur Ignace, vous êtes à Colisie, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour et merci pour l'invitation. Je voudrais d'entrée de jeu relever le fait que sur les médias, les réseaux sociaux ou les médias en ligne comportent, ça il faut le reconnaître, certains abus. Mais il faut aussi reconnaître que lorsqu'on est dans un évolue dans un espace où les médias sont quelque peu nivelés, cette pratique constitue une alternative d'information, même si à ce que l'on est en train de décrier comme tard. Mais il faut ici évoquer aussi un autre aspect, relever le fait que cette mesure, au départ, qui n'a pas rencontré l'assentiment de tout le monde, on sent que c'est aujourd'hui, on apprend c'est aujourd'hui qu'en principe les ministres vont rencontrer l'UNPC et les autres partis. C'est qu'en principe, on devait l'analyser à fond avant de la publier. Il y a encore des choses qu'il fallait corriger. Mais je voudrais relever aussi une autre dimension de la chose, c'est que sur le plan économique, ces médias en ligne sont comme tout autre média qui sont en train de fonctionner. Ils produisent des services. Ce ne sont pas des appels. Et à ce titre, je pense qu'il est tout à fait normal que ces médias se mettent en ligne et en règle avec l'État ou se fassent contrôler pour éviter ces abus et aussi se mettre en règle. Parce que je voudrais aussi relever un autre fait, c'est que l'État, au lieu de se mettre dans une position policière, devrait, n'est-ce pas, mettre des acteurs ou des services qui devaient contrebalancer ce qu'il estime être de détraction ou de contre-vérité, afin que cela ait servi de source de véritables informations quant à la population qui doit consommer ce qui est en train de se dire. Voilà à peu près comment moi j'envisage. Et enfin, je voudrais aussi relever un aspect, c'est que l'État aujourd'hui, c'est une question, mais je ne sais pas s'il est en mesure de contrôler sous le plan technique les différents éléments qui posent problème aujourd'hui. Voilà comment moi je vois les choses.
Merci beaucoup, professeur Ignace. Cette question, nous étions en contact tout à l'heure avec l'association de médias en ligne. Ils sont en réunion, d'ailleurs, en ce moment, pour qu'ils puissent avoir un point de vue comment qu'ils pourront mettre à la place publique. On était avec le porte-parole Israël Moutala en discussion tout à l'heure avant cette émission. Ils sont en train de discuter en ces moments pour voir comment est-ce qu'ils vont orienter leur réaction ou bien leur point de vue par rapport à cette arrêté du ministre. Mais vous aurez aimé, professeur Ignace, voir le ministre discuter avec l'ensemble de la corporation en amont pour pouvoir sortir l'arrêté plutôt que l'arrêté puisse faire l'objet de peut-être des contestations ou de débats comme on le voit. Merci beaucoup. Alain, vous êtes en Mbandaka. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute.
Bon, je suis un peu perplexe par rapport à certaines mesures que l'on prend dans notre pays, parce qu'on sent généralement les autorités sont animées de bonne foi pour essayer de réglementer ou de réguler la situation d'un secteur ou d'un autre. Mais malheureusement, ces mesures ne tiennent pas compte de toutes les dimensions voulues. Ce qui fait que, après quelques temps, on se rendra compte que ces mesures ne seront pas appliquées par le simple fait que la prise des positions de politiciens, généralement, ne tiennent pas compte de certaines réalités sur le terrain. Moi, je ne vois pas l'État aujourd'hui être en mesure de réguler ou carrément de maîtriser les médias en ligne. Parce que je ne vois pas comment ils vont procéder pour sanctionner en cas d'abus. Donc, quelque part, j'estime de mon point de vue que il doit le temps de bien réfléchir. Et ce qui est aussi vrai, il faut qu'on arrive effectivement à essayer un peu de conscientiser certains journalistes ou certains agents, certaines personnes qui sont dans ces secteurs. Parce que généralement, ils diffusent certaines informations qui ne sont pas vraies et qui peuvent aussi mettre en mal le fonctionnement de l'État. Donc, ils doivent déjà, à leur niveau, censurer leurs publications et faire en sorte que l'État aussi puisse avoir une administration forte pour arriver à réguler ces secteurs. Je me demande seulement s'il y a des lois qui existent dans ces sens ou qui vont dans le sens de réglementer ces secteurs, parce que apparemment ces secteurs est la résultante d'une évolution technologique et je ne sais pas si la législation a été adaptée par rapport à cette réalité. Et si on peut faire ça, ça va être une bonne chose, mais la responsabilité de tout un chacun voudra c'est que avant de diffuser une information, que ça soit en ligne ou que ça soit dans tout autre média, ils arrivent déjà à censurer leur publication pour que cela ne puisse pas mettre en mal le fonctionnement de l'État. Nous passons, nous sommes pendant une période suffisamment sensible qui voudra c'est que chacun de nous soit suffisamment responsable pour que nous puissions pas poser des actes sociétiques qui mettront en mal le fonctionnement de l'État et la nation tout entière.
Merci, merci beaucoup Alain. 081-890-4969, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Pendant ces temps, Sylvain, vous gardez à la ligne, vous êtes à Bounia.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi, de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Parole aux auditeurs qui se penchent sur l'arrêté du ministre de Médias et de la Communication par rapport à la gestion de médias en ligne. Professeur Kodjo Ndoukouma, docteur en droit du numérique de la Sorbonne, professeur des droits du commerce électronique. Vous avez suivi nos auditeurs.
Absolument.
Mais il y en a qui sont revenus encore sur cette question de la cybercriminalité. Avons-nous des textes juridiques aujourd'hui pour arriver à gérer la cybercriminalité? Mais comme Alain le disait tout à l'heure, il faut qu'on évite que les mesures paraissent conjoncturelles. Il faut qu'on ait des mesures structurelles parce qu'Elie s'inquiétait que cette mesure ne soit considérée comme un musellement de la presse en ligne. Et professeur Ignace le disait, ça devient aujourd'hui une alternative. Alors comment on peut éviter de tomber dans ces pièges?
Bon, moi j'ai lu l'arrêté. Je ne sais pas si tout le monde l'a lu. La proportion qui est prise de dire que l'arrêté est liberticide est une proportion quand même trop expansive, je pense. L'arrêté demande quoi? L'arrêté demande qu'une déclaration préalable soit déposée avant d'exercer une activité de média en ligne.
Mmh.
La deuxième chose que l'arrêté demande, c'est que toute publicité en ligne puisse être préalablement donnée auprès des organes censés pouvoir en vérifier le contenu. C'est ce qui est demandé. Bon, à partir de là, on peut maintenant commencer à dire qu'il y a une contrainte supplémentaire qui est donnée à la liberté de presse. Pour dire que, bon, avant d'exercer ma liberté de presse par les communications en ligne, je dois d'abord obtenir une sorte de quitus de l'autorité publique avant de pouvoir le faire. Et c'est en ce moment-là que toute la logique de l'Internet apparaît. Parce que l'Internet, c'est une infrastructure de liberté. Et effectivement, comme le disait le prof Ignace, c'est devenu un moyen de contournement lorsque on a peur d'être identifié, on utilise l'anonymat, ou lorsque on n'a pas accès à des moyens traditionnels de médias publics. Donc, mais à partir de là, je vois qu'il y a des considérations, disons que la mesure est prise in tempore suspecto. Mais le mobile qui inspire le ministre n'est pas un mobile forcément conjoncturel, mais ça peut être un mobile pour pouvoir essayer d'assainir l'espace public médiatique. Ça, je ne fais pas sa défense. Et j'explique simplement, toute proportion gardée, de quoi est-ce que nous parlons. Maintenant, en termes de cybercriminalité, effectivement, le mensonge à grande échelle est une forme de cybercriminalité parce que ça amène les gens à avoir un jugement biaisé qui les amène à des actes matériels de révolte, d'insurrection, d'insulte ou à des comportements désobligeants. Et donc, déjà à ce stade-là, l'information trafiquée fait partie de la cybercriminalité. Mais beaucoup de juristes disent qu'il y a vide juridique sur la cybercriminalité au Congo. Cela n'est pas vrai, je l'ai moi-même expérimenté. Il y a une ordonnance de l'époque du Zaïre, de 1987, sur l'activité informatique au Zaïre, qui prévoit des pénalités pour l'usage à des fins insurrectionnelles, à des fins infractionnelles, à des fins d'atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, l'usage de moyens des technologies de l'information à ces fins-là. Donc j'ai été un peu clair et c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Maintenant, en ce qui concerne l'attitude du ministre, parce qu'on doit dire c'est une autorité publique et nous, nous sommes les administrés, nous devons interroger le comportement administratif du ministre. Il y a trois domaines. Il y a le domaine de la législation, il y a le domaine de la réglementation et il y a le domaine de la régulation. Alors, lorsqu'une autorité doit prendre un acte administratif, cette autorité publique doit se poser la question dans quel domaine elle intervient. Ce n'est plus du domaine de la loi, parce que j'ai cité deux lois, la loi de 96, que évoque également le ministre des Médias, et puis il y a la loi de 2010 sur le CESAC. Alors, maintenant, la question se pose de savoir, est-ce que la matière régie par le ministre est-elle une matière relevant du domaine de réglementation où il est compétent, ou ça relève plutôt du domaine de la régulation? Et là, la question, moi, je la laisse en suspens pour ne pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Mais maintenant, la question vraiment sur le plan pratique, c'est la prise en compte de la dimension du problème, comme le dit M. Alain de Mbandaka. Ailleurs, quand on veut prendre des mesures du genre, on demande un rapport technique, on demande un rapport corporatif, ça veut dire qu'est-ce que la corporation de ses administrés, parce que la presse, c'est quand même une profession réglementée avec une autorégulation, on leur demande au préalable quels sont leurs desiderata, quels sont leurs inputs. Et on lance généralement une consultation publique pour même savoir si les internautes qui ont aujourd'hui accès à l'information par leur téléphone, et de plus en plus c'est là qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont comme point de vue là-dessus. Et en ce moment-là, lorsque une autorité publique prend une décision, cette décision est prise avec la circonspection nécessaire pour que nous n'ayons pas des cas de réaction a posteriori. Et d'ailleurs, ça sécurise la signature du ministre, parce que souvent, dans les arrêtés, maintenant, on dit « la corporation entendue » ou « tel autre organe entendu, le ministre arrête ». Ce qui veut dire que les gens sont liés également dans la décision que le ministre prend. Donc ça, c'est juste un partage de best practice, comment on dit ça, des bonnes pratiques qui se font de plus en plus à l'étranger, où on fait une participation assez citoyenne sur des mesures qui doivent pouvoir être prises. La preuve, en mai 2015, il y a eu un arrêté qui a été pris sur l'identification des abonnés au réseau téléphonique. Il y a eu plusieurs séances entre les autorités publiques et les sociétés de télécommunications pour pouvoir, ainsi que les fournisseurs d'accès à Internet, bien sûr, avant de pouvoir prendre cette mesure. Et cette mesure a été appliquée de bonne foi, sans qu'il y ait des tergiversations outrancières ou postérieures par la surprise qu'une telle mesure aurait pu générer.
On va écouter Sylvain qui est à Bounia et Trésor en Mbandaka. Sylvain, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Sylvain.
Eh bien, il faut d'abord que je puisse saluer l'invité, avec aussi la pertinence de ce qu'il avance comme débat et échange sur ce sujet. Je ne voudrais pas demeurer extrêmement technique ou technicien dans mon intervention, tel que peut-être les autres auditeurs l'ont fait. Mais moi, j'ai saisi le contexte de l'arrêté du ministre. Puisque lorsque vous tenez, par exemple, deux éléments seulement, ou deux mots, donc, il ne faut pas porter atteinte au droit à l'image et au droit à la vie privée. Et de ces deux éléments, vous comprenez que le souci du ministre se résume sur l'intégrité personnelle de l'autorité publique, telle que l'a dit l'invité. Et je ne voudrais pas ici avancer des arguments trop techniciens, mais peut-être me poser des questions. Quelles sont les vraies raisons qui ont poussé le ministre à prendre cet arrêté-là? Un, ou une, c'est que le ministre est content qu'il y a beaucoup de dérapages dans les comportements ou les agissements des Congolais, puisqu'il y a des choses comme les caricatures des autorités, puisque vous voyez quelqu'un, on prend sa tête, on la colle à une bête, voilà, ça porte à tête. Hein, à l'image de la personnalité, de la personne ou de l'autorité publique concernée, puisque c'est ça le cas de notre pays. Et lorsque vous considérez cet élément-là, il faut aussi interroger les raisons qui poussent les Congolais à agir ainsi. S'agit-il là d'une déception ou un sentiment répulsif de sa colère vis-à-vis d'un dirigeant politique, quid? Et lorsque vous cherchez à comprendre tous ces comportements, il faut dire que clairement, vous sentez un divorce qui existe entre le dirigé et le dirigeant. Et comme l'invité l'a si bien dit, il arrive des fois, on ne sait pas exprimer sa colère ou son désaccord avec une autorité publique, eh bien, on choisit l'Internet comme moyen d'expression. Je ne voudrais pas, moi, là, aller vers la cybercriminalité. La deuxième chose, lorsque vous regardez ce que le ministre appelle le droit à la vie privée, mais non, un homme politique, un homme public est de toutes les façons public, et d'ailleurs populaire, populiste et appartient à tout le monde. Eh bien, les agirs de cet homme politique doivent être réglementés et contrôlés à chaque instant, mais pas violer l'éthique et la morale de la société. Je donne un exemple clair, excusez-moi. Un ministre vient d'être nommé. On les voit partout en train de s'enivrer et il a des troubles partout. Voilà, les citoyens qui le regardaient, qui l'observaient, disent qu'il vient de sauter sur une chance et voilà les images partent. Quid, s'agit-il de porter atteinte aux droits privés de ces messieurs? On peut s'interroger. Mais aussi, il faut retenir la troisième chose. C'est très important que je vais terminer par là. Lorsqu'on est gouvernant, on est dirigeant politique. Il faut savoir ramener le peuple là où vous voulez. Ça veut dire la vision de la nation. Je l'ai toujours appelé dans la politique générale de l'État. C'est l'incapacité du gouvernement actuel à modeler le peuple congolais vers sa vision qui pousse que celui-ci soit en contradiction avec son dirigeant. Et voilà, ce sont des caricatures, ce sont des publications malsaines qui tombe, eh bien, je me dis, il n'est pas question ici de sortir des arrêtés, mais moi je me dis, il faut essayer un peu de revoir la façon de gouverner, de se réconcilier avec les dirigeants, pour qu'il n'y ait pas des actions ou des agissements de nature à ternir l'image de l'autorité publique. Et moi je me dis, non loin, ou sans même l'intention d'aller dans des débats techniques, le débat d'aujourd'hui est un débat de la moralisation de la vie publique au pays. Ça veut dire prendre les Congolais et son dirigeant, les mettre tous ensemble pour dire est-ce que nous pouvons nous comporter par rapport à notre sociologie congolaise. Et dans ces cas-là, le débat des droits ou le débat juridique, pour moi, dans une société où la sociologie est respectée, les coutumes, l'éthique est prise en compte, eh bien, les droits s'appliquent calmement.
Merci beaucoup, Sylvain. Vous avez insisté sur l'arrêté. Ce n'est qu'une réponse et vous estimez que c'est une réaction au niveau social. Mais cette réaction peut être réglée au cas où il y a l'amélioration de la gouvernance parce que plus c'est la vie privée, plus c'est le droit des autorités, vous l'avez dit, qui sont des fois caricaturées dans le média sociaux et tout ce qu'on est en train de voir. Mais s'il y a la question de la moralisation de la vie publique, l'amélioration des relations entre gouvernants et gouvernés, cela veut dire qu'aussi le regard de la population sur l'autorité et la répercussion de cela dans les médias sociaux, ça peut être revu. Merci beaucoup, Sylvain. Trésor, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Trésor.
Bien, merci. Je salue d'abord le courage du ministre. Je le félicite pour l'initiative parce que ça fait belle lurette que nous sommes en train de déplorer le vide dans le secteur de la presse en ligne, surtout des communications électroniques. Et donc, le ministre a osé prendre des mesures dans ces domaines-là. Mais j'observe que l'arrêté du ministre qui devait peut-être organiser la presse en ligne, donc le fonctionnement des médias en ligne, a plutôt tendance à renforcer un chevauchement entre les ministères de la communication et des médias et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication. Parce que l'arrêté aborde plusieurs questions et parfois en désordre. Donc, le même arrêté, quelque part, viole aussi la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1996. Donc, à bien suivre l'invité, que je salue aussi en passant, le ministre aurait mieux fait de soumettre un projet de loi, de préparer un projet de loi participatif où les services, les différents services du secteur allaient être impliqués à sa rédaction. Et on devait l'accompagner aussi avec les médias en ligne pour que les projets soient débattus au niveau du Parlement. Et puis, ça allait impliquer tous les peuples congolais. Parce qu'on ne peut pas parler des médias en ligne au jour d'aujourd'hui sans faire allusion à des journalistes qui s'improvisent par-ci, par-là. Et on les appelle très souvent les journalistes citoyens. N'importe qui est devenu journaliste sur sa page Facebook, sur son blog. Tout le monde peut créer des blogs, des pages sur les réseaux sociaux. Et n'importe qui peut se créer un site web. Et le ministre fera comment pour suivre le travail, le fonctionnement de toutes ces personnes-là, de tous ces gens-là. Et comment doit-on cibler, identifier les sites web ou les blogs qui appartiennent à des médias ou à des journalistes reconnus au regard des conditions pour être journaliste. C'est très compliqué. Alors, comme il s'agit vraiment d'un problème de tout le peuple congolais, moi je pense que de telles mesures allaient plutôt passer par le Parlement pour que le pays puisse être doté d'une loi. Et en ce moment-là, il n'y aura pas trop de mécontents, de revendications, de suspicions, puisque la loi, c'est l'émanation de la volonté du peuple. Alors, maintenant là, le ministre, avec tout ce qu'il vient de faire dans son arrêté, c'est son arrêté parce qu'un arrêté est différent de la loi. L'arrêté reflète très souvent les intentions, les humeurs de son auteur, autorité, soit-il, mais c'est une règle qu'on doit appliquer, mais l'application va toujours poser problème.
Merci.
Parce que déjà, il n'y a pas effet participatif. Les organisations des médias en ligne sont mises à l'écart lors de l'élaboration de cet arrêté. Et bien maintenant, il y a la publication de l'arrêté. D'emblée, quand on vérifie, on voit qu'il y a l'histoire de l'autorisation préalable, des histoires comme ça. Comme aussi avec les arrêtés qu'ils avaient déjà pris pour la télévision numérique terrestre, la TNT. Donc, Il y a eu des choses comme ça.
Ça veut dire qu'il y a des... Oui, voilà. Et là, Trésor, vous avez évoqué, vous avez évoqué que dans l'arrêté du ministre, hein, il y a beaucoup de matières qui sont abordées de la législation, comme le disait notre invité, la question des régulations, la question des réglementations et de la législation revient dans cet arrêté. Faudra-t-il avoir un projet de loi qui peut être participatif, c'est-à-dire que mettre tout le monde autour de la table, discuter, et pour essayer, hein, d'éviter ces différentes interprétations. Merci beaucoup, Trésor Sonville. Vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Thierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Par rapport à la thématique, moi je dirais que c'est bien beau de vouloir réglementer le média, mais néanmoins il faut savoir dans quel contexte, puisque Monsieur Lambert Mende, le ministre des Informations, il a pu faire ça, puisque c'est une autre partie de la classe politique qui se retrouve dans les médias en ligne. Pourquoi cette autre partie de la classe politique pourrait pas dire l'opposition qui se retrouve en médias en ligne? Puisque ces partis politiques n'ont pas accès aux différents médias. Plus précisément, à la RTNC qui n'est autre que le média officiel qui fonctionne avec l'argent du contribuable congolais. Au-delà de ça, ici à Lubumbashi, tous les médias de l'opposition demeurent fermés. Et comment est-ce que cette opposition peut communiquer? Puisque les partis politiques sont appelés à encadrer, à éduquer la masse, tout ça. Et ça se fait à travers le média. Et c'est ainsi qu'il y a beaucoup de médias en ligne. Avec ces médias en ligne, les partis politiques peuvent parvenir à communiquer, à donner une information. Et au-delà de ça, moi je demanderais à M. Mende de ne pas entraver l'article 26 de la Constitution. Là on parle de la liberté d'expression. La liberté d'opinion, ça c'est une entrave, puisqu'il n'y a jamais eu un projet de loi qui a été débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous devons respecter tous ces prérequis pour arriver à signer un tel arrêté. Vous comprenez un peu, monsieur Pierrot. Nous sommes d'accord avec lui, mais il faut y aller dans l'ordre. Il ne faudrait pas que ce soit une dictature, puisque M. Lambert Mende lui connaît déjà qu'il y a des médias tels que, je me permets de réciter, les Télé 50 et Cosso, là où il y a des mensonges, des informations, plus faites de mensonges. Et ces mensonges-là doivent être démentis. Et comment est-ce que une certaine classe politique qui n'a pas accès à ces médias peut démentir cela? Ce n'est que la seule façon.
Alors pour vous, cela veut dire Sonville, que si jamais l'espace médiatique est ouvert en termes d'accessibilité aux médias publics d'une manière égale et que chacun y accède, il y a moyen de pouvoir régler la question. Mais quand on voit qu'il y a encore de médias de l'opposition qui sont fermés, et c'était difficile aujourd'hui que les gens s'expriment, alors ils recourent aux médias en ligne. On revient au professeur Kodjon Dukuma avant d'écouter les derniers auditeurs, John qui est à Kananga. Professeur, vous avez encore suivi ses compatriotes qui se sont exprimés. Quelle est votre réaction par rapport à ces différents points de vue?
Oui, je salue les points de vue de M. Trésor de Mbandaka qui parle de chevauchement de plusieurs questions traitées dans cet arrêté. Je salue M. Stanville qui parle du contexte d'intervention de cet arrêté. Mais la question, elle n'est pas simplement à régler de façon juridique. Il y a une phénoménologie sociale aujourd'hui. Les 14-24 ans ou les 14-27 ans, ces jeunes gens-là, ils sont de, comment on les appelle, de computer literate. Ils sont des digital natives. En fait, ils sont nés avec l'Internet. Nous, on n'a pas grandi avec l'Internet.
Oui.
Donc c'est cette population-là, des nouveaux majeurs, et cette population des jeunes, qui est très souvent sur les réseaux sociaux, et c'est l'aile marchande, en fait, de notre société aujourd'hui, qui bouillonne, qui est mobilisée, qui est engagée aussi bien socialement que politiquement. Et cette cible est celle qui est adressée par les médias en ligne pour former l'opinion publique. Ça, déjà, c'est important de le savoir. Maintenant, les questions de vie privée et de vie publique ne concernent pas que les hommes politiques. Quand vous regardez les différents scandales qui sont sur Facebook, c'est des citoyens lambda ou c'est des jeunes filles qui n'ont rien demandé à être livrées comme ça en public en tenue d'Ève. Donc la loi ou le règlement protège tout le monde. Ce n'est pas forcément qu'il y a un contexte politique pour lequel le ministre se sert de ses pouvoirs pour comme instrument des objectifs politiques. Donc c'est simplement pour rester en fait dans l'objectivité. Maintenant, la question de la liberté de presse. Je veux vraiment préciser en tant que juriste que l'article 24 de la Constitution est celui qui traite du droit à l'information. Et le droit à l'information est un droit fondamental en termes de pluralisme informatif. Ça veut dire que on ne peut pas conditionner les gens à une seule information publique, comme ça pourrait se faire au niveau de Corée du Nord. C'est ça le sens du droit à l'information. Maintenant, la liberté de presse, le principe en est défini à aux articles 8 et 9 de la loi de 1996 du 22 juin, qui dispose que la liberté de presse est la règle et l'interdiction est l'exception. Et ces interdictions ne doivent être justifiées que par des motifs d'ordre public, de bonnes mœurs ou de respect de droit d'autrui. Alors, est-ce que l'arrêté que le ministre a pris enfreint ces conditions de liberté? Je laisse également la question en suspens. Alors, mais dans tout ça, moi je dis le ministre des médias, il a une grande responsabilité. Si je me réfère à l'auditeur qui a parlé, c'est la modélisation du comportement des administrés. En fait, l'information publique doit pouvoir créer une opinion favorable au fonctionnement des institutions, parce que les institutions ne sont ni de la majorité ni de l'opposition, les institutions c'est les institutions d'État. Et donc aujourd'hui, avec la concurrence faite par l'internet, qui est devenu un milieu totalement décentralisé, un milieu totalement de libertinage, nous devons pouvoir travailler sur des stratégies pour mettre en place des services informationnels. Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons une agence de presse publique qui est l'ACP. Ça veut dire, autant que fonctionne l'AFP, l'agence France Presse, ça veut dire on commence d'abord à prendre la bonne information chez l'État, et cette information est mise à jour et mise en ligne d'heure en heure, de seconde en seconde. Justement parce qu'on ne peut lutter contre la désinformation que par la bonne information. Mais ça, ce sont des mesures qui doivent pouvoir être étudiées. Vous avez encore aujourd'hui une autre forme de réseaux sociaux.
Alors, professeur, pourriez-vous qu'on accorde juste 30 secondes à un auditeur qui est déjà en ligne, John, pour ne pas le perdre rapidement. On revient pour cette phrase de conclusion. John, vous êtes avec nous. Absolument. Juste 20 secondes, John, dommage pour vous. Et quel est votre point de vue rapidement, John?
Bon, d'abord, je salue tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre à ce moment. Je suis maître John Mesebeti Ndemba, ici dans la province de Kassa Central. Monsieur Thierot, je ne pas surtout mauvais si le ministre a promis peut-être cette actualité qui est vraiment endommagée partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout le monde a la liberté de la presse. Donc, à savoir que nous devons vraiment respecter. Hein, surtout dans cette période.
Et John, dommage, oui, vous l'avez évoqué un élément important. On est dans une période électorale, il faut arriver à respecter. Dommage, on n'a pas beaucoup de temps. On revient à vous, professeur Kodjon Dukuma, peut-être qu'il est dans 15 à 20 secondes pour qu'on puisse chuter et terminer cet échange. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas les vider dans cette émission.
Absolument. Il y a une approche plutôt plus circonspecte à avoir sur la législation de l'Internet. Parce qu'au-delà de tout ce qui a été dit au cours de cette émission, nous avons aujourd'hui WhatsApp, nous avons Imo et nous avons Viber. Et vous remarquez que aujourd'hui, les médias en ligne nous suivent jusque à nos numéros de téléphone en nous envoyant des notifications à nos téléphones et à d'autres supports que nous avons. Il faut pas simplement se dire que l'Internet, ce sont des sites Internet, ce sont des blogs, mais l'Internet, c'est aussi votre téléphone.
Voilà, merci beaucoup, professeur Kodjon Dukuma. On pourra peut-être vous retrouver après qu'on ait eu la réaction des sociétaires de médias en ligne tout à l'heure. Vous êtes docteur en droit du numérique de la Sorbonne et professeur de droit du commerce électronique. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Jean-Noël Mokondo était à la mise en ordre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay et Piero Elameji. Ça a été pour moi un plaisir de pouvoir vous vous le présenter. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Merci, au revoir.